RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Nicolas. Merci de revenir prolonger notre réflexion. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'un sujet qui nous préoccupe tous. Soit que nous nous plaignions d'en avoir trop, soit que nous regrettions de ne pas en avoir du tout, soit qu'il nous plaise, soit qu'il nous pèse, je veux parler du travail. De quoi parle-t-on vraiment? Parce que...
Bonjour Nicolas, bonjour Grégoire. Le travail, c'est pénible. Le travail, c'est une condamnation, péché originel, et on parle d'enrichissement, de dignité de la personne, de respect de l'individu. Je trouve quand même que c'est un peu gros. Comment concilier tout ça, Nicolas, quand on est un patron catholique?
Bon, bonjour d'abord. Le travail, c'est un... Ça n'est pas une malédiction, il faut le dire d'emblée. Dans la vision chrétienne, le travail est fait pour l'homme. Et l'homme n'est pas fait pour le travail. Le travail, c'est en fait c'est ce qui permet à l'homme de prolonger l'œuvre de création de Dieu. Donc en fait, c'est tout ce qui contribue à améliorer le monde, c'est tout ce qui contribue à développer des communautés humaines harmonieuses, c'est tout ce qui contribue à faire grandir les gens autour de soi, c'est tout ce qui contribue à se développer soi-même, à grandir soi-même. Donc le travail, c'est tout cela. Alors, bien sûr, le travail peut être pénible dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Mais le travail est avant tout ce qui permet à l'homme de devenir ce qu'il est. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante.
En d'autres termes, si je comprends bien, le travail, on peut trouver un plaisir, trouver des agréments dans le travail. Le travail serait un facteur d'épanouissement de la personne.
Il peut l'être, certainement.
C'est pas trop du rêve, ça?
Non, pas du tout. Non, il y a de multiples exemples qui montrent que sur la planète, pas si loin de nous, en fait, parmi les gens qui nous entourent, lorsqu'on cherche à comprendre ce qui anime les gens au quotidien, vous avez beaucoup de gens qui vous parlent de ce qu'ils font, qui n'est pas nécessairement du travail salarié, mais qui est en fait un engagement à transformer les choses autour d'eux, quelquefois autour d'une passion, quelquefois autour d'un métier, de l'exercice d'un métier. Ce qui est très frappant, c'est de voir que il y a une multitude de personnes qui oublient en fait la pénibilité de ce qu'ils font simplement parce qu'ils sont totalement engagés dans ce qu'ils font, soit parce que ça a du sens pour eux, soit parce que ça leur plaît, soit parce que ils ont le sentiment de contribuer à une œuvre commune qui est plus grande qu'eux. Enfin, il y a une multitude de raisons, c'est très divers. Lorsqu'on décrit le travail, en fait, on parle de certains travaux d'entreprises qui dépendent de certaines organisations du travail qui tendent à réduire la personne à un rouage dans l'organisation de l'entreprise et donc à lui ôter en fait ce qui fait la dignité de tout être humain, ce qui ôte toute capacité de jugement d'intervention sur les choses. De plus en plus, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, on organise le travail d'une façon pesante, avec une multitude de normes de toutes sortes, des procédures de toutes sortes qui enferment en fait l'activité humaine dans un cadre préétabli qui empêche toute liberté d'action. Et c'est peut-être de cela dont les gens se plaignent.
Alors justement, moi Nicolas, en vous écoutant, je pense à cette petite expérience que j'ai eue d'un patron qui, en lisant le journal, a découvert que un de ses collaborateurs avait des talents absolument caché, parce qu'il a vu que ce collaborateur organisait avec une association une manifestation importante le week-end suivant, etc. Et il m'avait convoqué en me disant, mais enfin, ce monsieur, on n'en parle pas, il fait quoi dans la maison, c'est quoi ce gars-là? Et je lui ai dit, il est là, il fait ça, mais on a découvert, semble-t-il, et ça pose un vrai problème pour l'entreprise, que quelqu'un avait sans doute des talents. La preuve, il faisait des tas de choses à l'extérieur, mais il les mettait pas vraiment au service de la boutique dans laquelle il travaillait. Alors ça, c'est un vrai problème. Est-ce que l'organisation peut y faire? Quelle serait la clé de cette difficulté?
Alors, je ne sais pas s'il y a une clé dont on puisse parler en 30 secondes. C'est clair que c'est un problème. Le problème décrit est un problème à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les personnes. Pour l'entreprise, c'est une évidence. C'est constater qu'il y a des collaborateurs qui sont doués d'une multitude de talents et que ces talents ne sont pas mis en valeur. Pourquoi l'entreprise serait-elle dans l'impossibilité de rechercher une bonne adéquation entre les talents des personnes qui y travaillent et les activités proposées? Ça, c'est une grave question, c'est une grande question, et ça devrait être un sujet de préoccupation pour les dirigeants d'entreprise. Et puis pour les personnes, de toute évidence, quelqu'un qui sait être doué d'un certain nombre de talents et qui désirerait déployer son activité professionnelle à l'intérieur de ses talents et pour lequel on ne donne pas cette possibilité-là, eh ben c'est quelqu'un qui est malheureux et qui va en fait rechercher à l'extérieur de l'entreprise ce qui va lui permettre de se développer le mieux possible.
Alors peut-être une courte pause pour nous recentrer, pour ne pas rester malheureux, et puis nous reprenons tout à l'heure cette réflexion passionnante. Eh bien, nous avions laissé notre pauvre collaborateur potentiellement malheureux, en tout cas, on l'a compris, inconnu de son patron. Que peut-on faire ?
Alors, j'aime bien la question « que peut-on faire ?» Alors, on ne sait jamais qui c'est. Et donc, dans l'entreprise, il faut transformer le « on » en un « je ». C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une personne, un responsable, qui ait conscience de ce type de problématique et qui ensuite essaye d'apporter des réponses appropriées. Et pour apporter des réponses appropriées, il faut avoir conscience, des trois dimensions principales du travail. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut avoir conscience qu'il y a dans le travail une dimension subjective qui concerne la personne elle-même et donc ce qu'elle va apprendre au travers de son travail, une dimension objective qui s'intéresse plutôt aux résultats du travail, et puis une dimension collective qui est une dimension d'ordre relationnel qui est absolument essentielle à la vie de l'entreprise, parce que il n'y a pas d'entreprise donc sans une multitude de collaborateurs, et évidemment il n'y a pas de succès possible dans l'entreprise sans coopération, sans collaboration des uns avec les autres. Et c'est ce qu'on appelle pudiquement l'esprit d'équipe. Par contre, cette dimension relationnelle, elle joue un rôle essentiel dans certaines circonstances pour une multitude de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et puis peut-être un autre point dans la prise de conscience en fait des données de ce genre de problème, quand on parle des conditions de travail et de l'humanisation du travail. Au fond, qu'est-ce que c'est que un travail humain? Quelles sont les caractéristiques du travail humain par rapport au travail d'une machine ou au travail d'un animal? Eh bien, il y a en fait dans les spécificités du travail humain, on pourrait dire tout ce qui n'est pas spécifiquement mécaniste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'exécution ou de la simple exécution d'ordre, de procédures, de règles de travail. Et c'est en fait tout ce qui va pouvoir mobiliser en fait toutes les qualités de la personne, et quelquefois donc ces qualités, ben, en fait c'est l'alliance du cerveau et de la main, c'est l'alliance du travail de l'esprit et de la main, et donc c'est tout ce qui va permettre à la personne soit d'intervenir au niveau de la conception du travail ou de l'amélioration du travail, et ensuite de son exécution et de l'adaptation de l'exécution. Et donc notamment, cette humanisation du travail par deux choses qui sont très faciles à observer et qui peuvent être encouragées. C'est d'une part tout ce qui procède de l'autocontrôle, donc s'autocontrôler, autocontrôler ce que l'on fait, et puis c'est tout ce qui va permettre d'encourager la prise d'initiative par rapport à tout un ensemble d'imprévus.
Si je comprends bien, parce que ça me paraît d'une richesse importante, vous êtes en train de dire que le travail consiste, le travail humain par rapport à l'homme et à l'animal, par rapport à la machine et l'animal, consiste à un travail de préparation, une activité de préparation, une activité d'exécution, une activité de suivi et de contrôle. Et qu'en dehors de ces trois étapes, ces trois phases, si l'être humain n'est pas impliqué dedans, on arrive à un appauvrissement du travail et à une attrition des capacités de la personne.
Lorsque, effectivement, ce qui est demandé aux personnes, c'est essentiellement d'exécuter, les personnes sont réduites à l'état de pignon dans une boîte de vitesse. Et je ne pense pas que chacun puisse être heureux d'être considéré comme un pignon dans la boîte de vitesse, même si on y met de l'huile, pour faciliter les choses.
Voilà. Très, 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 très clair. C'est, très belle image.
C'est assez clair, effectivement, oui. Alors, je pense que... Et on a compris qu'effectivement, j'ai pas du tout l'intention d'être réduit à un pignon dans une boîte de vitesse. Mais encore faudra-t-il que nous ayons l'occasion d'approfondir un petit peu cette réflexion parce que le temps nous presse, mais je crois qu'il y a beaucoup à dire encore. Alors, rendez-vous lors d'une prochaine émission pour poursuivre cette réflexion.